Bonjour, je suis Camille et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast La Voix des Invisibles. Ici, on parle de ceux que l'on n'entend pas. Ici, on met en mots des parcours de travailleurs sociaux. Et ici, en toute simplicité, je leur donne la parole pour qu'ils puissent se raconter, nous raconter, par où ils ont commencé, par quoi ils sont passés, leur quotidien de travail, là ou les situations marquantes qu'ils ont accompagnées, le ou les publics pour qui leur engagement est plus fort, parce que oui, on a tous nos préférences. Qu'est-ce qu'ils retiennent de toutes ces rencontres humaines, leur avis sur le travail social d'hier et celui d'aujourd'hui, et bien plus encore. J'espère que vous trouverez ces parcours aussi inspirants et enrichissants que moi. Belle écoute à vous. Aude, c'est avant tout une rencontre que j'ai pu faire en formation. Pour ceux qui sont passés par là, c'était ma référente conseil d'études, celle avec qui on peut échanger facilement durant les 3 années. Elle a aussi été ma directrice de mémoire en DEIS. Alors, on en a passé quelques heures à échanger sur le travail social. Sa vision, humaniste et fine de tout ce qui nous entoure, son expertise de terrain, couplée à son statut actuel de formatrice, méritait sa place ici. Merci à elle pour tout ce qu'elle m'a transmis et ce qu'elle continue à transmettre. Belle écoute à vous. Bonjour Aude et merci d'avoir accepté mon invitation à participer à ce podcast. C'est un grand honneur pour moi d'avoir la chance de vous interroger. Je vais vous laisser vous présenter, nous dire votre formation initiale et depuis combien de temps vous œuvrez dans le social.
Ma formation initiale, c'est assistante de service social et ça fait 30 ans que j'ai passé mon diplôme.
Ok. Qu'est-ce que vous souhaitiez faire quand vous étiez petite, enfin, en tout cas à la base, quelle était votre première idée avant d'arriver ici?
Alors moi j'ai un problème parce que j'avais pas de projet.
Ok.
J'avais pas d'idée de ce que je pouvais faire plus tard, mais ma formation initiale c'était pas du tout sur le social puisque j'étais partie plutôt sur une formation métier d'art.
Ok.
J'ai tâtonné, on va dire, comme beaucoup finalement de candidats à ce métier, hein, qui arrivent à la formation d'assistant de service social après quelques errements.
Mm-hmm.
Et puis, je ne peux pas dire que je suis arrivée là par hasard, parce que je pense qu'on n'arrive jamais complètement par hasard, mais après un bilan de compétences.
Ok.
Et puis ce bilan de compétences a fait apparaître l'orientation vers les métiers du travail social que je ne connaissais pas. Voilà, j'ai fait comme beaucoup de gens, je me suis penchée un peu sur la formation et puis je suis allée interroger des professionnels pour comprendre un peu leur métier.
Ok. Vous passez les concours, c'est ouais. sous le même format qu'on a pu connaître du coup
Alors que vous avez connu vous, oui, puisque c'était un écrit, il y avait okay. une sélection écrite et puis pour ceux qui étaient retenus à l'écrit, il y avait un oral.
D'accord, ok.
Alors, on était très nombreux à l'époque.
Ouais.
On était à peu près 400, je crois, 400, un peu plus de 400 pour 30 places.
Ok.
Quand je suis arrivée en formation, à l'époque, c'était pas le centre qui existe aujourd'hui, c'était mm-hmm. un tout petit centre. C'était assez familial, en fait. Une impression que tout le monde se connaissait.
D'accord.
Et qu'on formait un petit microcosme. Et j'étais frappée par... l'impression que j'étais chez moi, en fait, quand je suis arrivée dans le centre de formation. J'avais l'impression que j'étais rentrée chez moi.
D'accord.
Une impression de familiarité, à la fois avec les locaux,
ouais.
Les personnes qui organisaient cette formation, et puis avec les camarades de promo, en fait. Après, je pense que c'était parce que quand on arrive là, on est dans une forme de communauté, d'intérêt et de valeur.
Mmh.
Voilà, j'avais l'impression qu'on était toutes à peu près d'accord sur notre manière de voir le monde et en tout cas d'intervenir sur cet environnement-là. Voilà, puis il y avait beaucoup de bienveillance, je pense aussi, c'est une formation. On nous socialise aussi à la bienveillance, on nous socialise à l'écoute, à considérer les personnes comme en droit d'être respectés dans leurs besoins, dans leurs projets, dans leurs désirs. Voilà. Donc du coup, ça me convenait bien.
Ce qu'on a envie de mettre pour les personnes, du coup, on se le met déjà un peu entre nous.
Voilà.
Donc forcément, c'est un espace où effectivement la bienveillance prime en général. Votre premier stage, vous vous souvenez où vous l'avez fait?
Oui. Bon, moi, je l'ai fait à Guignon.
Ok.
Alors j'avais choisi Gueugnon parce que c'était une cité industrielle.
Ok.
Et que je voulais approcher le métier par la condition ouvrière.
Ok.
Bon, je pense que ça participait à l'époque de mes convictions politiques. On y est parti à deux. On n'avait pas de voiture, pas de permis. C'était un stage un peu épique. Parce qu'il n'y avait pas de train.
Voilà, Gueugnon étant quand même très loin.
Ah, très loin. En fait, géographiquement, c'est pas très loin. Mais non, c'est vrai que pour y aller, c'est compliqué.
C'est compliqué.
Mais pour moi, c'était un stage marquant.
Ouais.
Parce qu'on était dans un centre, ce qu'on appelait autrefois les centres médico-sociaux, mm-hmm. où se réunissaient finalement tous les acteurs de l'action sociale dans un même lieu,
okay.
et au milieu d'un quartier sensible. Donc, dans ce centre, il y avait l'équipe d'AS, il y avait les permanences PMI, il y avait la mission locale, il y avait un animateur socioculturel, et puis il y avait des permanences d'un technicien CAF, je crois, de la Sécu, enfin bref.
Ok, donc ça regroupait effectivement tout... Enfin là, vous aviez un panel de partenaires présents au même endroit.
Absolument.
Quand on fait un stage en première année, on se dit, cool du coup, parce que je sais un peu qui fait quoi tout de suite d'entrée.
Mais en fait, c'était la polyvalence de secteur. À l'époque, elle était sur ce modèle partout. Mm. Donc, en fait, il y avait une vraie facilité à traiter finalement l'accès au droit, mm-hmm. parce que on avait sous la main tous les acteurs de l'accès au droit.
Et vous traitiez en direct?
En direct.
Ok.
Il suffisait d'aller d'un bureau à l'autre pour résoudre en fait parfois des situations bloquées, quoi.
Ok.
Et puis c'est une année un peu charnière pour moi puisque c'était en 89 et en 89 est tombé le mur de Berlin, mm-hmm. et ça s'est fait pendant mon stage. Donc, il y avait à l'époque la radio qui fonctionnait H24.
D'accord.
Avec France Inter en boucle, qui racontait heure par heure, en fait, la chute du mur. Et tous les débats qu'il y a eu avec les habitants du quartier à ce sujet.
Ça devait être intéressant, du coup.
Je me souviens qu'il y avait un groupe de jeunes qui venaient stationner là dans le hall parce qu'il faisait chaud. Et puis, il y avait l'animateur de la mission locale qui venait discuter avec eux et qui leur posait la question de savoir ce qu'ils comprenaient de la situation géopolitique. Mmh. Et je m'étais dit, mais c'est fabuleux le métier d'assistante sociale, en fait, parce que c'est très libre. Effectivement, je retrouvais ce qu'avait dit la professionnelle que j'avais rencontrée en amont de mon entrée en formation, une grande liberté d'action, un champ infini d'intervention. Et puis un métier de la parole, de la rencontre, en fait, on faisait que ça. Moi, j'ai l'impression que j'ai parlé pendant tout mon stage, qu'on faisait que ça, parler. Parler de tout, parler pour connaître les autres, pour se connaître. Enfin, moi, j'ai appris vachement de choses à ce moment-là.
Et là, du coup, à l'issue de ce premier stage, est-ce que ça vient confirmer, du coup, votre choix professionnel? Alors, j'imagine, avec le rapport de stage de 30 pages, que vous vous y retrouvez, mais pas de doute qui plane, pas de... Non, c'est vraiment ça. C'est à ce moment-là, vous vous êtes dit, OK, c'est bien ça.
Oui, à ce moment-là, oui.
Oui, à ce moment-là, vous êtes sûre. Ouais. Ok, vous entamez votre deuxième année de formation, votre stage de deuxième année, vous le faites où?
Alors je le fais dans la Nièvre,
okay.
Je cherche les espaces.
Les espaces, les diagonales du vide.
Exactement.
Bon, ok.
Et en fait là c'est un stage dont personne ne veut, alors c'est super pour moi, parce que c'est un stage en développement social local à LMSA.
Ok.
Alors, le seul souci, c'est que sur tout le département, la Nièvre, que vous connaissez, c'est un département rural, et il n'y a pas beaucoup de transports en commun. Je n'ai toujours pas de permis,
ni de voiture.
Donc, je continue mes aventures en stop.
Ok.
Et aussi en covoiturage, à l'époque. Alors, je trouve que la Nièvre, c'est un département qui est super intéressant pour ça, parce qu'en fait, comme les gens ont souvent des problèmes de mobilité, on est très souvent pris en stop. Ça marche plutôt bien. Et puis, j'ai pris des bus scolaires. Je me suis débrouillée comme ça pour circuler. Alors, j'ai adoré ce stage.
Oui, ok.
Là, l'idée, en fait, c'était de développer des programmes dans des communautés de communes. autour de la petite enfance, mais aussi des personnes âgées ou du développement socio-économique.
Ok. Tout ça en lien avec la MSA.
Oui, c'est la MSA
qui est chargée. C'est eux qui
vous développer.
Commanditent un peu le... Enfin, qui vous passent la commande de ce stage-là, du coup.
Alors non, c'est une offre de stage. Il y a un service social qui fait du développement social à l'époque à la MSA.
Ok.
Donc la MSA, comme la CAF, fait de la polyvalence de secteur et a un service développement social.
Ok.
Donc en fait, moi je suis en stage au service de développement social avec, à l'époque, il y a deux AS et une CESF
okay.
dans ce service. Et elles travaillent sur l'ensemble du territoire départemental. Donc en fait, c'est plutôt les communautés de communes ou les cantons, en fait, qui nous font des demandes. Voilà, ils ont des besoins et en fait, ils demandent un accompagnement par la MSA pour développer en fait, des actions
okay.
En faveur du territoire et de la population.
Quel genre d'action vous êtes amené à développer là, du coup, sur ce stage?
Alors, ça dépend des programmes, en fait. Hein, mais à l'époque, il y avait donc un programme autour... je me rappelle de la redynamisation socio-économique. Donc, l'idée, c'était de faire du diagnostic, en fait. Hein.
Okay.
Donc, on faisait des diagnostics pour comprendre où en était le développement socio-économique d'un territoire. Donc, on recensait l'activité économique, la présence d'associations, les dynamiques partenariales. On interrogeait la population, tous les acteurs. Et puis, on produisait un diagnostic. Et à partir de ce diagnostic, on proposait des pistes.
D'accord.
Donc, les pistes, ça pouvait être... Et après, donc, les pistes, elles étaient prises en charge par un autre service qui finançait, en fait, qui accordait des aides au développement. Donc, ça pouvait être, par exemple, la création d'une épicerie solidaire. Ça pouvait être le développement du tissu associatif en faveur de telle ou telle population.
D'accord. Donc, effectivement, vous connaissez, du coup, à ce moment-là, la Nièvre...
Ouais,
très bien, un peu comme votre poche, du coup. Et qu'est-ce que vous sortez de toutes ces rencontres?
Alors ça me permet d'accéder à un autre pan du métier d'assistante de service social, où je me rends compte que c'est aussi une fonction qui nous amène un peu à être dans des formes de coordination. Mais aussi d'analyse globale en fait, d'une situation, on va dire territoriale ou en tout cas collective. J'avoue que ça me plaît pas mal parce qu'on s'appuie moins sur les manques que sur les ressources et potentialités d'un territoire.
Ok. Stage de dernière année, c'est souvent des années qui sont bien bien rythmées en général. Vous choisissez de le faire où? Enfin, est-ce que vous choisissez...
Dans la Nièvre.
On se sent bien là-bas, donc on y retourne.
J'ai cherché le lieu le plus éloigné de Dijon.
C'était la Nièvre, du coup,
et
l'autre bout
oui,
du département.
C'était un tout petit canton au sud de Nevers, donc on n'était pas très loin des frontières de l'Allier.
Oui, effectivement.
Et puis là, moi, j'ai eu la chance d'avoir une formatrice super, qui avait une maîtrise de sa pratique incroyable. Au début, ça m'a un peu inhibée parce que je me disais, j'arriverai jamais à son niveau. Elle a une telle maîtrise de sa pratique. Elle est tellement à l'aise avec les personnes qu'elle accompagne, une telle facilité, c'était fluide. Enfin, je me disais, j'y arriverai pas. Enfin, la barre était trop haute à ce moment-là pour moi. Surtout que j'avais pas du tout fait beaucoup d'entretiens d'aide, à part en première année. Comme en première année, on n'est pas encore sur un stage d'observation, on était déjà dans la mise en œuvre d'intervention, mais malgré tout, c'était pas. C'était qu'une première année.
C'était en première année, oui, on n'a pas le même recul, on ne perçoit pas les mêmes choses.
Moi, j'avais l'impression d'apprendre un autre métier.
D'accord.
Bon, il se trouve que la formatrice a dû s'absenter à un moment, et je me suis retrouvée toute seule sur ce terrain.
Et on vous a dit, t'es en troisième année, tu peux prendre ces suivis. Quel public vous aviez en face de vous?
Alors là, on a affaire à un public en situation de très grande précarité et très isolé.
Ok.
Contrairement à la population à Guignon, où il y avait finalement une communauté d'intérêt et d'existence, les gens avaient tous à peu près vécu les mêmes choses. Ils étaient dans un ensemble urbain où malgré tout, on trouvait à peu près tout à l'époque. Là, sur ce territoire nivernais, il n'y avait rien en fait. Il y avait une très grande... distance géographique déjà entre les communes, les gens avaient accès à rien. Et je suis arrivée dans un canton où les élus n'étaient pas très favorables à l'action sociale.
D'accord.
Donc c'était un peu compliqué de trouver des relais au niveau des élus. Il n'y avait pas beaucoup de partenaires. Et une population tellement isolée, tellement en souffrance, je dirais. J'ai vu des situations auxquelles je crois que j'étais pas préparée. Des familles, je me souviens d'un éleveur de lapins qui avait perdu tout son élevage et qui vivait dans un endroit, dans une petite maison en terre battue, où ils avaient une petite fille qui dormait dans une caisse, qui était pleine de poux et qui cherchait... Je me souviens qu'elle s'accrochait à moi, cette petite fille, et je savais pas quoi faire avec ça.
C'est ce que j'allais vous dire, du coup, l'isolement dont vous parlez, de ces personnes, est-ce que du coup il y avait un surinvestissement du travailleur social? Parce que c'était le lien avec, un lien assez peut-être fort avec une personne de l'extérieur qui venait pour les aider.
Oui et non, en même temps, il y avait de la défiance, hein, c'était particulier, les gens parlaient très peu.
Ouais.
Il y avait aussi des gens qui étaient venus s'installer là, parce que la Nièvre, comme c'était un territoire où il y avait beaucoup de nourrices à une époque, et donc il y avait beaucoup de petits Parisiens qui avaient été placés là,
d'accord,
et qui revenaient à l'âge adulte, parce qu'ils en avaient gardé un souvenir un peu enjolivé, quoi.
Okay.
Et qui arrivaient, à l'époque c'était le RMI, mais ils n'avaient pas du tout anticipé le fait que bah, il faudrait une voiture, qu'on ne pouvait pas se déplacer, qu'il n'y avait pas d'activité, que tout était loin.
Bien sûr.
Et qui étaient dans un sentiment de frustration, dans un sentiment de trahison, donc qui était très vindicatif vis-à-vis des services sociaux. Parce qu'effectivement, dans un territoire urbain où il y a un empilement de dispositifs, il y a un foisonnement de relais, de partenaires, d'acteurs, etc., on a l'embarras du choix. Mais là, il y avait que l'AS de secteur, en fait. Et du coup, ils étaient assez exigeants dans les aides financières et il n'y avait rien. Et puis, il y a des situations qui m'ont vraiment laissé désemparée. Par exemple, je me souviens d'un gamin, un jour, qui vient me voir parce qu'il n'a plus rien à manger depuis une semaine. Je lui demande quel âge il a. Il paraît que c'est très jeune. Il me dit qu'il a 16 ans. Mais où sont tes parents? Ils sont partis. Donc, sa mère est décédée. Et puis, son père est parti depuis plusieurs mois, en lui laissant un peu d'argent. Mais j'apprends, en fait, qu'il vit dans une grande maison, tout seul. Et cette maison se situe dans un village à 10 km du CMS. Puis je lui dis, mais t'es venu comment, en fait? À pied. Et effectivement, ce gamin, je me dis, ça fait combien de temps que tu vis tout seul? Tu vas plus à l'école? Tu vas plus, t'as pas de formation? Non, rien. Donc, je me dis, mince, protection de l'enfance.
Oui, à un moment donné.
On va lancer une procédure. Je lui explique les choses en lui disant qu'on ne peut pas laisser tout seul, que maintenant, je peux essayer de trouver des solutions pour lui. Il s'affole, il s'en va. Voilà, c'est ce genre de situation qui m'a laissé désemparée. Donc après, évidemment, quand même, les choses ont été lancées. Mais pour moi, c'était comme une violence que j'avais faite à ce gamin. Je m'y étais mal prise, j'aurais pas dû faire comme ça. J'aurais dû laisser le temps à la confiance de s'installer. Mais sur le coup, j'étais tellement surprise de cette situation, de ce gamin tout seul, sans argent, qui commençait à avoir faim. Je me dis, comment il a fait pour survivre jusqu'à maintenant?
Bien sûr, mais en même temps, je ne sais pas s'il y a de bonnes ou de mauvaises faces. Enfin, c'est toujours un peu délicat quand quelque chose arrive comme ça, qui nous paraît tellement loin de ce qu'on a l'habitude de croiser, qu'on se dit, mais comment on peut laisser un enfant seul avec un peu d'argent dans une grande maison à 16 ans? Même encore aujourd'hui, ça serait déconcertant, ce genre de situation.
Moi, j'ai compris qu'après son père, en fait, il partait travailler à l'étranger. Et qu'en fait, il lui laissait un peu d'argent, le temps. Mais là, ça faisait un moment qu'il était parti, mais sans nouvelles. Enfin, je me dis, mais comment cet enfant? Pas de copains, plus d'inscription nulle part.
Ça, pas de scolarité ou d'insertion. Ok. Donc, vous êtes diplômée. Quel est votre premier job?
Alors, j'ai rejoué la carte de la cité ouvrière.
Ok.
Alors, en fait, c'est une première expérience qui est assez paradoxale. D'une part, parce que j'ai eu beaucoup de liberté.
Oui, vous étiez dans quelle institution?
Alors, département. En fait, je suis restée dans le département toute ma carrière professionnelle.
Ok.
Là, en fait, je suis arrivée sur un secteur qui était dépourvu depuis quelque temps. Il n'y avait pas de partenariat réellement en place, il n'y avait rien d'institué, il n'y avait pas d'habitude prise. Alors en même temps, ça c'est fabuleux, parce que tout est à construire et on ne marche pas sur les traces de quelqu'un d'autre, donc on peut penser que ça facilite un peu l'arrivée. On est arrivé à deux, donc ça facilite aussi. Et j'avoue que ça, c'était une super expérience, parce que, et ça rejoint la question de l'évolution du travail social, hein, mais moi je suis arrivée à une époque où on parlait encore d'une polyvalence de secteur, au sens de l'accueil inconditionnel de toute population d'un territoire pour toute demande à caractère social. Pas de discrimination, ni en termes de public, d'âge, de situation familiale, voilà.
Et là, vous accueillez toutes les personnes.
Tout le monde.
D'accord.
Tout le monde.
Tout le monde.
Dès l'instant où c'est un problème social. Voilà. Donc avec la collègue, quand on est arrivé, moi avec mon expérience de DSL dans la Nièvre, je lui dis on va faire un diagnostic.
Bah oui, du coup, non mais c'est vrai, on devrait tous commencer par ça sur un premier job, que ce soit le premier ou le dixième, c'est connaître un peu son territoire.
Et ses besoins.
Voilà. Et oui, qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qu'il y aurait besoin. Voilà.
Donc on a rencontré à peu près tout le monde,
okay.
Les élus, les présidents d'associations, les enseignants, les commerçants. Voilà, on a essayé de brasser large. Il y avait aussi un CMP, voilà. On a beaucoup travaillé avec le CMP parce que c'était nos seuls partenaires à ce moment-là institués sur le secteur.
Pour ceux qui ne sont pas initiés, CMP, c'est Centre Médico-Psychologique, pour ceux qui ne sont pas initiés au travail social. Mais...
Voilà. Et donc, c'était un service déconcentré d'un hôpital, d'un centre hospitalier spécialisé en psychiatrie. Et du coup, là, ils étaient là aussi en permanence. C'était nos seuls partenaires qui étaient à domicile dans la commune, dans le chef-lieu de canton, parce qu'à l'époque, nous, c'était par canton. Bref, donc... La population, au départ, on s'est dit comment on va la recevoir, comment on va se présenter, comment on va l'accueillir. Et on s'est dit, on va faire nos permanences les jours de marché, parce que on est arrivé. Alors, nos locaux, en fait, c'était un ancien centre médico-social, mais désaffecté.
OK.
Il n'y avait rien dedans. Des bureaux en métal et un téléphone.
Ah bah quand même, il y a le téléphone.
Il y avait un téléphone. Bon, évidemment, pas d'ordi, on n'avait pas de photocopieuse, bref. Le placard fermé à clé, c'est déjà pas mal. Donc, on est allé chercher un peu de matériel sur le site principal du service. Et puis, on s'est dit, on va s'installer voilà, comme on pourra. Et on a fait, je me souviens à l'époque, parce qu'on n'avait pas d'ordi ni rien, on a rédigé sur petit papier à petits carreaux les jours de permanence et les heures de permanence, les jours de marché, parce que le marché était à côté du CMS.
Que vous avez affiché et distribué un petit peu partout.
Ouais.
Mais oui.
Voilà. Et en fait, et puis il y a ici, je crois qu'il y avait une annonce dans la presse locale aussi. Voilà. Et puis, au début, on était débordés, noyés. Je me souviens que j'avais jusqu'à 18 personnes par permanence.
C'est énorme.
Je finissais à 14h, 15h. Les gens étaient affamés parce qu'ils attendaient des fois depuis très tôt le matin. Ils étaient énervés parce qu'ils avaient attendu. Enfin... Bon, on s'est dit comment on peut faire pour réguler tout ça. Donc, on a essayé au maximum, parce qu'on n'avait pas de secrétariat qui faisait l'accueil ni rien. Donc, on a essayé de s'organiser pour faire un peu l'état des demandes dans la salle d'attente.
Recaler
des rendez-vous pour les situations les plus complexes. Hein. Mais c'était compliqué au début, parce qu'on ne connaissait pas les gens.
Et puis, du coup, en plus, vous êtes jeune professionnel. Donc, il y a quand même... plein d'habitudes dans la gestion de l'entretien qu'on n'a pas forcément quand on commence. On peut vite se laisser déborder par un entretien qui peut durer une heure, alors qu'en fait, en un quart d'heure, une AS expérimentée, elle aurait emballé ça.
Exactement.
Les premiers pas ne sont pas évidents dans cette gestion-là et de personnes qui investissent aussi beaucoup le travailleur social.
Et puis, bon, on ne connaissait pas trop les procédures, tout ça. Parce que moi, je n'avais jamais fait, depuis deux ans, mes deux stages, on va dire, de deuxième et troisième année, c'était dans des univers institutionnels très différents. Donc là, moi, je ne connaissais pas trop les procédures en place. Bon, on s'était fait des classeurs, des cahiers, des trucs. Mais bon, c'est vrai qu'il a fallu effectivement aussi découvrir les dispositifs disponibles, en tout cas. Bon, alors ça, c'était le bon côté des choses. On nous a laissé faire notre diagnostic, on nous a laissé très libre dans l'appropriation, on va dire, de notre fonction. On nous a laissé, enfin, on nous a fait confiance, faut dire. Voilà, là-dessus, très bien. Après, je pense que mon inexpérience et les doutes que j'avais au moment du stage de troisième année, évidemment, ont ressurgi. Et j'ai eu très très peur de ne pas faire correctement mon travail. Donc avec un sentiment d'illégitimité. Un doute vraiment sur mon utilité. J'étais à un moment désespérée. Hein. Je me disais, je peux rien faire.
Vous aviez pas de retour d'une hiérarchie ou
non
non y... enfin du coup vous avez dit enfin on était très libre mais ça c'est ce que ça sous-entend il y avait pas forcément d'hiérarchie très présente pour vous faire des retours ou les retours vous les aviez pas non plus des personnes que vous accompagniez
pas au début non,
non
on les entend pas hein,
quand
au
on
début.
Commence non,
non on les entend on pas alors sûrement que les gens nous renvoient des choses mais moi en tout cas je les entendais pas j'étais pas capable je pense à ce moment-là de les interpréter Alors, l'intérêt, c'est qu'on était vite repérés.
Bien sûr.
Et que du coup, on avait une liberté réelle pour aller discuter avec les élus, avec les acteurs voilà, qui coopéraient avec nous. Donc, on était rapidement identifiés. Et du coup, malgré tout, on pouvait négocier des choses. On pouvait discuter des choses. Donc, ça, c'est le côté positif. Je vous dis le côté négatif. Enfin, le revers, je ne sais pas si on peut parler de côté négatif ou positif, mais le revers de ça, en tout cas, c'est une forme d'isolement. Et moi, je n'avais pas de réponse à mes doutes, en fait.
Oui, c'est ça. Il n'y a personne pour vous dire, là, tu es dans la bonne posture. Oh. Et en plus, du coup, premier job, on va discuter avec des élus, ce n'est pas évident non plus.
Bah, là, avec le stage de deuxième année, les élus, moi, je n'avais pas peur des élus.
J'avais pas peur des élus, ça allait.
Non, au contraire. En plus, moi, j'ai toujours eu des convictions politiques qui m'ont amené à un moment à discuter avec des élus, etc. Donc ça ne m'a jamais posé problème, en fait, la relation avec les élus, non.
Qui vous ait peur. Est-ce que vous vous souvenez d'une situation qui vous a un peu marqué, entre guillemets, pour illustrer, en tout cas, une situation dont vous vous souvenez, pour illustrer un peu votre action sur ce premier emploi?
Je me souviens d'une jeune femme qui s'appelait Sylvie, parce qu'on avait le même âge. Ses enfants avaient été placés très tôt, parce qu'en fait, Sylvie, elle a eu ses deux enfants dans une cave. Elle a vécu dans une cave pendant plusieurs mois. Et donc, les enfants ont été placés parce que les conditions de vie n'étaient pas favorables à leur développement. Et moi, quand j'ai connu Sylvie, c'était au moment où elle devait récupérer ses enfants.
Ok.
Elle avait trouvé un logement et elle venait de s'installer sur la commune. Elle était accompagnée à ce moment-là en AMO. Donc, action éducative en milieu ouvert. Je crois que c'est l'éducateur, mais qui était assistant social d'ailleurs, il n'était pas éducateur, qui est venu me voir en me disant, voilà, il faudrait qu'on accompagne cette jeune femme ensemble parce que elle aura besoin d'aide sur le plan social. Elle vient d'arriver, elle est un peu paumée. Bon, très bien. Donc, je prends contact avec Sylvie et on entame un bout de route ensemble, on va dire. Alors, c'est vrai que Sylvie, elle m'a beaucoup marquée parce que c'est quelqu'un qui était dans une... Comment dire? Elle avait un parcours quand même bien difficile. Elle avait été elle-même placée très jeune avec son frère et une sœur. La sœur, très vite, ils ont perdu sa trace parce qu'elle était placée dans une autre famille. Mais elle est restée très proche de son frère. Son frère n'a pas supporté le placement et du coup a souvent fugué. Donc elle fuguait derrière lui pour pas le laisser tout seul. Donc il y a une grande proximité entre ce frère et cette sœur. Ils sont retrouvés dans un établissement éducatif, puis replacés chez des assistants familiaux, etc. Bon, un parcours en tout cas fait de rupture. Son frère, vers l'âge de 17 ou 18 ans, il s'est pas mal drogué et il sniffait de la colle. Et puis, un jour, c'était un peu trop. Et du coup, il a fait un coma. Il n'a jamais récupéré ses fonctions complètement. Donc, il avait des déficits. Il perdait la mémoire. Il avait des troubles du comportement. Et du coup, elle n'a jamais lâché son frère. Mais en même temps, ce frère, c'est lui qui la plombait, en fait. Donc, même quand elle a pris son logement, là-haut, sur la commune, lui, il est venu habiter là. Donc, ça n'allait pas pour récupérer les enfants. Ça... Le service, ça, Emo... En fait, j'avais dit, c'est soit les enfants, soit le frère. On ne peut pas mettre les enfants avec le frère parce qu'il peut avoir des comportements violents. Bon.
Il y a un risque de danger pour les enfants, donc...
C'est ça, donc en même temps, l'affection qu'elle avait pour son frère faisait qu'elle ne pouvait pas l'abandonner. Donc moi, je dis, ben, on va essayer de travailler de concert avec le CMP, le Centre Médico-Psychologique, pour accompagner ce frère. Voilà, chacun... Donc on a pu à un moment mettre en place quelque chose comme ça pendant un temps, mais c'est vrai que le frère, il tenait difficilement l'accompagnement, le lien, pour lui c'était compliqué. Bon, Sylvie avec moi, en fait elle s'est attachée à moi, et je me suis attachée à elle. Alors pas seulement pour notre proximité d'âge, hein, mais parce qu'à un moment, je pense que j'étais la seule à laquelle elle pouvait s'attacher, quand son frère a été réhospitalisé, à un moment il était réhospitalisé... d'office, en fait, avec une hospitalisation sous contrainte. Et du coup, elle s'est retrouvée très démunie, donc elle s'est accrochée à ce moment-là à la relation que je lui proposais. Et puis, du coup, je l'accompagnais aux audiences pour les enfants, parce que elle avait besoin, sans doute, de la présence que je pouvais lui accorder. Donc, elle a pu récupérer la garde des enfants. Il y avait toujours l'AMO, donc avec le collègue AS, en parallèle. Sauf que Sylvie, il y avait plein de choses qu'elle oubliait. Elle oubliait de régler la cantine. À l'époque, l'école, quand on ne réglait pas la cantine, mettait les enfants sur le trottoir.
Ok, super violent. Mais oui.
Donc je suis allée plusieurs fois chercher les enfants à l'école. Je les ai fait manger au CMS parce que... bon voilà, il fallait quand même qu'ils mangent un peu parce que Sylvie, elle n'avait pas de quoi les faire manger. Et à un moment, je me souviens que... j'ai parlé de cette situation avec des collègues qui m'ont dit « Mais tu outrepasses... tes missions, en fait, ils sont en danger. Il faut que tu signales. » Alors, je lui dis, c'est le collègue Aymon qui va faire ça. Et puis, je ne sais pas s'ils sont en danger. Je pense que cette jeune femme, il faut qu'on l'aide à se situer. Ça fait quand même très longtemps que... Enfin, ça faisait à l'époque 5 ou 6 ans qu'elle n'avait pas vu ses enfants. Ses enfants étaient placés tout petits. Là, elle les récupérait, ils avaient 7, 8 ans, les petits. Donc, je dis, il faut qu'elle réapprenne, en fait. Pour l'instant, elle n'a jamais eu à s'occuper des enfants, puisqu'elle les avait, je crois, ils ont dû revenir le week-end, mais très peu de temps avant que la garde lui soit redonnée. Donc, je me disais, mais il lui faut du temps. On ne peut pas demander à quelqu'un, en l'espace de quelques mois, de reprendre des habitudes en termes de gestion financière, de tâches domestiques. Enfin bon, ce n'est pas possible, il faut du temps. Oui, mais tu n'as pas à les nourrir, tu n'as pas à aller les chercher à l'école. Oui, mais des fois, je n'arrive pas à la joindre, moi, Sylvie. L'institut, c'est moi qui l'appelle.
Oui, donc, bien sûr, vous êtes le référent.
Alors, je vais quand même pas les laisser sur le trottoir devant l'école, parce que j'arrive pas à joindre leur maman. Enfin, bon. Et puis, des fois, effectivement, elle venait en catastrophe à 11h30 pour me dire, c'est mercredi, j'ai pas de quoi les faire manger. Alors, je fais quoi? On va voir avec le Secours Pop, on va voir avec le Secours 4. Ils ont pas de la bouffe. Puis, si j'arrivais pas à les joindre, allez, on va à la boulangerie, on vient trouver un truc.
Mais oui.
Donc là, je me suis fait un peu bousculée par mes collègues à l'époque, parce que... Et je pense qu'elles avaient raison de me dire que j'étais pas dans mes missions, que j'aurais pas dû, que c'était pas professionnel. Bon, au bout d'un moment, quand même, on a mis en place une mesure de tutelle.
Pour qu'on gère l'argent de Sylvie.
Pour gérer l'argent de Sylvie. Parce que l'argent de Sylvie partait aussi beaucoup pour son frère.
Et oui, c'est ce que j'allais vous demander, du coup, si le frère était encore dans la partie.
Bien sûr, donc du coup, avec la mesure de tutelle, ça a permis quand même d'assainir un peu le budget. Mm-hmm. Et puis, ça a permis à Sylvie de sans doute de mieux cerner les besoins des enfants, l'usage qu'on devait faire des prestations, etc. Donc les choses sont peu à peu rentrées dans l'ordre. Je me souviens simplement que... À un moment, on s'est un peu... du coup, elle avait moins besoin du lien parce qu'autour d'elle, on avait mis en place d'autres repères, en fait, d'autres relais. Donc, il y avait la mandataire pour la tutelle, à l'époque, on appelait ça une tutelle aux prestations familiales, enfin, qui était présente. Il y avait toujours l'éducateur, enfin, l'assistant social AMO. J'avais mis aussi en place un système d'aide aux devoirs pour les enfants le soir. Et puis, on a pu mettre en place aussi une TISF à un moment pour soutenir un peu l'entretien de la maison, des enfants, etc. Parce que c'est vrai que parfois, c'est un peu compliqué encore. Donc, du coup, ça faisait beaucoup de monde autour d'elle.
Ça faisait beaucoup de monde, oui.
Moi, j'intervenais de moins en moins souvent, en fait, parce que c'était juste pour renouveler les mesures, voilà, faire un point avec les différents intervenants. Mais finalement, c'était moins avec Sylvie qu'avec les autres intervenants. Donc, peu à peu, on a pris un peu de distance l'une avec l'autre. Et je l'ai retrouvée une dernière fois. On a fait une sortie familiale à un moment. Parce que alors, c'était ça aussi qui était intéressant. C'est comme il n'y avait rien, on a pu faire plein de projets collectifs. Et là, on avait réussi à monter une sortie familiale avec des mères en situation de monoparentalité pour beaucoup. Et puis, on avait proposé très largement l'action à toutes les personnes qu'on connaissait dans notre... Dans la liste des dossiers actifs,
dans la file active, comme voilà. On dit.
Et du coup, bah, j'ai envoyé un petit mot à Sylvie, mais sans penser que je la reverrais, parce que du coup, je me dis, bon, maintenant, elle est sur autre chose, et tant mieux. Et elle est venue.
Ok.
Et en fait, elle était métamorphosée physiquement. Moi, je l'avais quittée, elle ressemblait un peu à une toute petite fille. Elle était toute menue, avec plein de taches de rousseur, avec ses cheveux blonds. Et là, j'ai retrouvé une jeune femme assez sûre d'elle, avec ses enfants, et qui avait de l'autorité sur ses enfants, mais une autorité sans violence, enfin. Et là, je me dis, ah, quand même, ça sert à quelque chose, voilà. Le travail social. Finalement, cette jeune femme, elle a trouvé sa place. Et pendant tout voyage, on a échangé en fait sur sa nouvelle vie, comment elle se sentait aujourd'hui. Donc j'ai appris qu'elle avait plus de, enfin que elle allait sur la fin de la mesure de tutelle ou prestation familiale, que la mesure allait être levée parce qu'en fait, elle voyait pratiquement plus l'éducatrice, qu'elle avait repris la main sur une partie du budget. Voilà, la mesure d'AMO était déjà levée à ce moment-là. La TISF était partie. Bref.
Elle était presque seule dans sa situation,
ouais.
sans plus de béquilles pour l'épauler, pour l'aider à.
C'est ça, donc son frère était pris en charge, lui, dans une maison relais. Donc elle était assez tranquille par rapport aussi à son frère. Il me semble qu'à ce moment-là, elle avait déjà recommencé une relation amoureuse. Enfin, voilà, je suis partie du secteur. À ce moment-là, c'était une situation que j'ai eue très vite en arrivant. Mm-hmm. Et c'est une des dernières situations avec laquelle j'ai fait le bilan, en fait, à l'occasion de ce voyage, en fait.
C'est une chance, ça, de pouvoir faire un petit bilan avec les personnes qu'on accompagne. En tout cas, pouvoir prendre un peu des nouvelles et voir leur évolution. Je trouve que c'est peu souvent qu'on a cette opportunité-là. Est-ce qu'à ce moment-là, vous renouez un peu avec le sens de votre intervention et est-ce que vous recevez cette évolution comme une gratification de votre travail à l'instant T ?
Alors, je pense pas, mais par contre, déjà, enfin à ce moment-là, ce que je perçois, c'est les capacités de résilience des gens. Parce que Sylvie, elle avait quand même vécu un parcours vraiment compliqué. Et je me dis, elle s'en sort, c'est vachement bien.
Oui.
Je pense que c'était surtout grâce à elle, en fait. Hein. Moi, je me dis, qu'est-ce que j'ai représenté dans sa vie ? J'en sais rien. J'en sais rien. À un moment, j'ai dû être une bouée de secours parce qu'elle s'accrochait comme ça. Peut-être que ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est si j'ai fait quelque chose, c'était juste d'accepter d'être une bouée de secours et d'accepter aussi de déborder ma mission. De lui laisser le temps et pour qu'elle ait le temps de déborder de ma mission.
Oui, bien sûr.
Et pas tout de suite de dire les enfants sont en danger, ils n'ont pas
mangé, la cantine
n'est pas. Voilà, on va les replacer. Pour moi, l'idée, c'était de me dire, mais elle a besoin de temps et de temps et d'espace. Pour qu'elle ait cet espace, moi, il faut que je grignote sur le mien. Donc, du coup, elle m'a fait comprendre ça.
Est-ce que vous arriviez, du coup, c'est vraiment la question qu'on dit aux... Enfin, c'est ce qu'on essaie en tout cas de faire travailler aux jeunes professionnels, aux étudiants, de mettre la bonne distance dans la relation. Mais est-ce que cette situation, elle vous amenait à ramener des choses un peu dans votre espace personnel ? Est-ce que vous arriviez à couper le soir après l'avoir vue en vous disant « Ok, c'est bon, je coupe, je vais pas du tout penser à elle ce soir » ou est-ce que du coup c'était encore un peu difficile quand une situation elle prend comme ça et
non,
qu'elle
empiète. Non, j'ai jamais pu couper, moi.
Ouais.
Mais même encore aujourd'hui, il y a des gens auxquels je pense. Je me dis, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? où ils sont aujourd'hui, qu'est-ce que leur vie. Je pense que je me suis plus attachée aux gens qui ne se sont attachés à moi. Moi, je pense en tout cas que les gens, sur ce premier poste, parce que c'est un poste pour moi qui était vraiment difficile, je crois qu'ils m'ont plus donné que ce que je leur ai donné. Les gens donnent énormément quand même.
Je suis très d'accord avec ça. Ils nous donnent des belles leçons de vie, même des enfants, des très jeunes enfants, donnent parfois des belles leçons de vie à nous adultes. Je suis complètement d'accord.
Et du coup, moi, je me sens à côté un peu... pas grand-chose, hein, parce que... Et en fait, je me dis, à un moment, au moment de quitter ce secteur, je me suis dit, mais finalement... Est-ce que mon travail, c'est pas juste d'accepter qu'ils me donnent comme ça des choses? Et puis, du coup, en faisant ça, finalement, ça leur redonne une part de puissance, en fait. J'en sais rien, je dis ça, mais j'en sais rien. En tout cas, j'ai l'impression. Il y a des gens qui sont venus me voir, j'ai vécu des entretiens, des fois qui ont duré 2 heures, où il y avait autant de contenu que dans des accompagnements de plusieurs mois. Mais parce que, en fait, c'était tellement dense dans l'échange, les gens donnent tellement en très peu de temps. Puis du coup, si on répond un peu en acceptant de griller les étapes et de déborder sur l'heure d'entretien prévue, eh ben, je trouve que ça donne des choses assez belles.
Bien sûr.
Et ça... J'ai passé 6 ans sur ce secteur, et en fait, en 6 ans, j'ai changé de métier. Je suis toujours assistante sociale. Mais c'est plus le même métier. Je suis passée d'un métier d'accès au droit, voilà, où on accueille des demandes et des gens, on essaie de résoudre des problèmes, à une position de témoin, en fait.
Un métier où la relation prime, du coup, sur le motif d'accompagnement, en tout cas, le premier motif, ça peut être un...
Alors par contre, c'est important, parce qu'il faut toujours que les gens partent avec quelque chose. Je me dis, les gens, il faut qu'ils partent avec un bout de quelque chose, qu'ils n'aient pas l'impression d'être venus pour rien.
Une réponse.
Un bout de truc.
Ouais, ouais.
Même des fois, c'est symbolique, c'est un papier, un numéro de téléphone, un autre rendez-vous.
Parce que rien que ça rassure, parfois, parce qu'on prend en compte un petit peu la demande, la situation, et on sait qu'il y a un lien quelque part qui nous permettra peut-être à un moment donné d'avancer.
C'est ça. En tout cas, je me suis rendu compte que, au-delà de l'écoute, etc., il fallait que les gens repartent avec quelque chose d'un peu tangible, matériel. Bon, voilà, souvent un bout de papier. On écrit des trucs dessus.
C'est ça, exactement. Non, mais c'est vrai que ça, l'importance du bout de papier écrit, le prochain rendez-vous, ou le numéro d'une personne à appeler,
voilà.
C'est important.
Ou même simplement des démarches qu'on va faire la prochaine fois.
Ouais. Une liste de papiers à ramener.
Voilà, mais partir avec quelque chose. Je pense qu'il y a... En même temps, c'est presque un engagement. Je te donne un bout de papier, tu vas le garder avec toi.
C'est un contrat.
Et c'est un contrat. Voilà.
Donc, vous partez de cette première expérience au bout de 6 années avec une vision de votre travail qui a changé par rapport à...
Oui, moi, j'ai changé de travail. J'ai vraiment l'impression d'avoir changé de travail en 6 ans, en fait.
C'est fou. Ouais. Vous vous dirigez vers quoi pour la suite ?
Bon, après, je suis partie sur un poste, ce qu'on appelait autrefois les cellules d'appui RMI.
Okay.
C'est-à-dire que alors le boulot, c'était d'accompagner des élus en milieu rural qui étaient à l'époque chargés d'instruire des demandes de RMI et de rédiger les contrats d'insertion.
Les élus ?
Oui.
Ok.
En Saône-et-Loire, en fait, les communes pouvaient déposer des demandes, enfin, instruire des demandes. Et du coup, si elles instruisaient les demandes, c'était l'instructeur qui était chargé du contrat.
Ah, ceci explique cela.
Voilà. Et du coup, sauf que les petites communes, elles étaient un peu démunies pour rédiger des contrats. Elles ne savaient pas ce qu'elles pouvaient proposer, comment le proposer, etc. Bon, donc, le département a créé 2 postes, cellules d'appui. Et l'idée, c'était d'accompagner les élus pour l'instruction et la rédaction des contrats. Et puis, c'était aussi monter éventuellement des projets d'insertion plus collectifs. Donc, imaginez, des fois, voilà, on a monté un chantier. À un moment, c'était... j'ai accompagné une municipalité dans un projet de logement social d'hébergement d'urgence. Voilà, c'était des choses comme ça.
Vous retrouvez un peu l'aspect développement social local, voilà. Finalement, qui vous a beaucoup plu sur le stage de deuxième année.
Voilà. Okay. Et puis, il y avait aussi une fonction d'information et de formation des élus. sur ce qu'est le RMI, ce qu'est l'action sociale, et en fait ce qu'est l'accompagnement social.
Mais du coup, dans cette expérience-là, est-ce que vous avez l'impression d'être un peu plus loin du public ou pas ? C'est une question que je me pose là, comme ça.
Un peu. Alors même si, je vous avoue que les communes, parfois, me confient gentiment l'entretien.
Voilà.
Et que je l'ai pris volontiers parce qu'il y avait des situations qui étaient vraiment complexes. Et puis je voyais, alors souvent c'est la secrétaire de mairie hein, qui faisait ça, et parfois la secrétaire de mairie me disait, mais moi c'est pas mon travail, je me sens tellement pas à l'aise. Voilà. Donc du coup, si je voyais qu'il y avait que ça pouvait porter préjudice aux intérêts de la personne, je reprenais l'accompagnement.
Ok. Voilà. Vous restez combien de temps sur ce genre de poste ?
Alors j'ai dû rester 3 ou 4 ans. Ok. 4 ans peut-être bien. Après, je suis revenue... donc, j'ai changé de département. Je suis revenue en polyvalence de secteur.
Ok.
Et là, j'ai connu les derniers feux de la polyvalence de secteur au début des années 2000.
Ok.
J'ai vu changer. Donc là, je suis restée à nouveau. Donc, j'ai dû faire 6 ans. 5 ou 6 ans, je pense, en polyvalence. Et là, j'ai vu vraiment la polyvalence de secteur disparaître, s'effacer.
La définition de la polyvalence de secteur que vous aviez tout à l'heure,
d'un accueil inconditionnel. Ouais. Et puis d'une grande liberté d'action. Alors l'accueil inconditionnel, on l'a gardé sur les terres où j'étais, parce qu'on était en milieu rural.
Okay.
Voilà. Donc on accueillait quand même tout public d'un territoire pour tout problème social, ça c'est sûr. Mais on a perdu une bonne partie de l'autonomie. En fait, quand je suis arrivée, il n'y avait pas d'encadrement, donc on s'est débrouillé comme on a pu, et j'ai retrouvé mes habitudes de travail de départ. Mais là, j'étais un peu plus sûre de moi, déjà parce que j'avais déjà vécu l'expérience une fois, et puis parce qu'on était plus nombreuses, là, on était une équipe de, je ne sais plus, 7-8, et puis que des gens qui arrivaient.
D'accord.
Donc, on était toutes nouvelles arrivantes. On a reconstruit une équipe qui avait été explosée. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était que des gens qui avaient eu de l'expérience ailleurs. Puis de l'expérience, on avait toutes quelques années derrière nous. Donc du coup, on ne venait pas de nulle part, on ne débutait pas, et on avait déjà une idée assez personnelle de ce qu'était le travail social. Et ça, c'était vraiment intéressant.
Oui,
et on avait tout envie de construire quelque chose à ce moment-là, à cet endroit-là. Donc là, j'avoue que c'était fabuleux. C'est le meilleur moment, je pense, de ma carrière professionnelle. Enfin, quoique, non, je ne peux pas dire ça, parce qu'il y en a une autre après qui était encore mieux. Enfin, qui était différente.
En tout cas, là, vous vivez une bonne expérience où vous vous sentez plutôt en phase et en équilibre entre votre travail, les valeurs, vos convictions, l'équipe, parce que le travail d'équipe, ça revient souvent dans les entretiens que je peux faire avec les travailleurs sociaux. C'est la nécessité d'avoir une équipe soudée. Dans certains secteurs, ça dépend les personnes qui... œuvre un peu plus seule, c'est pas forcément un besoin, mais quand en tout cas il y a une équipe solide, ça fait une bonne part du travail. C'est ce qu'on me remonte très souvent. C'est intéressant.
Pour moi, c'est essentiel, en fait. C'est là que je mesure que, en fait, le public, c'est toujours un peu le même. Quels que soient les gens, c'est toujours un peu les mêmes.
Les problématiques ou en tout cas les demandes sont toujours les mêmes. Récurrentes en polyvalence, oui.
Les dispositifs, on ne peut pas dire que ça change beaucoup. Non, voilà. Vraiment, ce qui change, c'est l'équipe. Et c'est l'encadrement. Alors, sur mon premier poste, j'ai eu la chance d'avoir un encadrement plutôt pertinent et plutôt... alors, même s'il ne me renvoyait pas des compliments, malgré tout, je pense que si je m'étais autorisée à aller lui dire « ça ne va pas », je pense qu'il aurait fait quelque chose. Je ne me suis pas autorisée. Ça, c'est mon problème après. Autant sur donc dans ma seconde expérience de polyvalence, je suis tombée. Alors au début pas de cadre, donc forcément ça facilite les choses. Mais quand on a eu à nouveau des cadres, là ça s'est mal passé en fait, parce que on était une équipe qui avait su fonctionner en autonomie pendant 2-3 ans.
Ouais. Ah oui, quand même. Ouais, 2-3 ans, il y a le temps d'installer une autonomie, un fonctionnement. D'autogestion, entre guillemets.
Il y avait une cadre qui était en partance hein, au début, mais bon, elle posait pas grand-chose. Donc, en fait, on s'est organisé un peu, je dois dire. ça fonctionnait bien. Et puis surtout, c'est qu'on avait mis en place un petit groupe, on était très contents, qu'on appelait un groupe de développement social local, où on a construit des projets et on les a mis en œuvre avec nos partenaires, avec tous les autres acteurs de ce territoire-là.
Okay.
Voilà, il y avait des acteurs de la lutte contre l'exclusion, donc ils faisaient de l'hébergement d'urgence, d'autres qui faisaient la mission locale. Enfin, là, pour le coup, on en avait des partenaires. Et des partenaires, pareil, qui venaient d'arriver, donc qui étaient plutôt impliqués, qui avaient plutôt envie que quelque chose bouge. Bref, donc là, c'était très actif.
Okay.
Quand l'encadrement est arrivé, au début, on nous a laissé travailler comme on faisait avant. Et puis, au bout d'un moment, on nous a dit, bon, maintenant, c'est plus vous qui allez aller aux réunions du groupe de développement social local. C'est le cadre. Pourquoi ? Parce que c'est sa fonction. Et puis, on nous a rappelé que... parce que nous, on s'investissait dans tous les projets qu'on mettait en œuvre avec nos partenaires. Et là, on nous a dit, non, maintenant, il va falloir vous recentrer sur les missions prioritaires. Oui, mais moi, ma mission, c'est... c'est très global. C'est très large. Ouais, c'est quoi la mission prioritaire ? Oui, il y a protection de l'enfance, protection des personnes, mais ça, le fait de m'engager dans des projets ne nuit pas, en fait. Au contraire. Au contraire, je dirais.
On fait du collectif pour...
Voilà. Oui. Et peu à peu, en fait, il a fallu se resserrer sur... en fait, non pas des missions, je pense, mais sur des dispositifs mis en œuvre par le département. Et on a commencé aussi à vouloir un peu contraindre les durées d'entretien, le nombre d'entretiens. Alors moi, ça ne me convient plus.
Mmh, bien sûr.
Moi, j'ai toujours fonctionné avec des permanences sans rendez-vous et des rendez-vous. Une permanence sur rendez-vous, pour moi, ce n'est pas une permanence, c'est des rendez-vous. Oui. Ce n'est pas une permanence. Bon. Moi, j'avais besoin d'un moment de permanence dans la semaine parce qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas se projeter sur un rendez-vous, c'est pas possible. Ils en sont trop loin.
Mais donc, par contre, ils savent qu'il y a un créneau dédié à un moment donné de la semaine.
Ça, voilà. Ouais. Et du coup, ils peuvent venir. Mm. Ils sont pas astreints des horaires. Ils peuvent venir s'ils veulent. Voilà. Puis s'ils veulent pas, ils viennent pas. Mais une forme un peu de... Voilà. Ici, c'est l'espace de liberté possible. Mm. Et moi, j'ai toujours travaillé comme ça. Et là, on m'a dit, maintenant, c'est fini. On fait plus de permanence sans rendez-vous. Et c'est la secrétaire qui prend les rendez-vous. Et c'est toutes les 45 minutes.
Ça a dû être un choc assez important si on repart de votre première expérience où vous avez 18 personnes sur votre permanence, une salle d'attente pleine à craquer, où vous essayez de faire un peu le tri, un peu comme vous pouvez, et où les entretiens peuvent durer 2 heures parce que les personnes vous investissent. Et là, on vous dit, c'est sur rendez-vous et c'est 45 minutes.
Et puis, c'est uniquement sur les objets sur lesquels le département peut répondre. En gros, FSL, RSA, ouais. AMT, protection de l'enfance, voilà.
Ça réduit.
Alors, qu'est-ce qu'on fait des personnes sans papier, du coup, qui n'ouvrent pas droit aux prestations sociales ? Qu'est-ce qu'on fait des jeunes pour lesquels il n'y a pas de dispositif en dehors du FSL éventuellement ? Mais bon, s'ils sont SDF, on en
c'est
sait
à
quoi.
À la marge, oui.
Alors d'ailleurs, ça a commencé comme ça, avec l'histoire je me souviens d'un jeune SDF qu'on a accueilli sur la commune, et pour lequel on avait entamé un accompagnement à plusieurs avec la mission locale, avec la communauté Emmaüs. Bref, on avait essayé d'entourer ce gamin parce qu'il était vraiment très isolé, puis en pleine perdition, là. Et là, on m'a dit, mais attends, oulala, mais SDF, il n'habite pas la commune, t'as pas à le prendre en charge. Celui-là, il faut le renvoyer sur Dijon. Non, mais on ne peut pas le renvoyer sur Dijon, parce que Dijon n'en veut pas. Donc, on peut pas le renvoyer comme ça. Il faut qu'on lui propose quelque chose. Bref, en fait, ça n'a pas été possible. Le gamin est reparti. Il est parti sur Paris. Il s'est suicidé. Et on a pu... Voilà, vermis. Fin des...
Ok.
J'ai appris son suicide par l'AS de secteur à Paris.
Qu'avait repris contact avec lui.
Qui m'a appelé en me disant, il m'a parlé de vous. Donc, je vous appelle pour vous prévenir.
Ouf. C'est pas le genre d'appel qu'on a envie de recevoir. Ouais. Comment vous gérez ça, du coup, ensuite, avec votre hiérarchie fin...
Alors moi, assez rapidement, ça me met en colère, parce que du coup, j'y trouve plus mon compte. Et puis, en fait, moi, le problème... Après, oui, je sais, en discutant avec des collègues, ils me disent, ce n'est que du travail. Oui, peut-être, mais... Ouais, oui. Moi, c'est un travail qui, pour moi, c'est un... C'est vrai que c'est un travail salarié, c'est vrai que si peut-être on n'avait pas gagné notre croûte, on ne ferait pas ça, j'en sais rien, mais c'est un travail qui nous engage et qui engage aussi la personne en face. La personne nous investit quoi qu'il arrive, même quand c'est, elle nous investit de manière agressive ou qu'on... Ouais, même si c'est dans la contradiction, en tout cas, pour moi, ce travail engage la vie de l'autre et notre personne. Bon. Donc, qu'on vienne me dire, en fait, ton travail, ça va être uniquement de permettre l'accès au droit, de faire rentrer des gens dans des dispositifs, des protocoles, des parcours, qui sont contraints par le temps, qui sont contraints par le nombre d'heures d'accompagnement, qui sont contraints dans le contenu de ce qu'on va faire, à un moment, je me dis, bah, ça, c'est plus du travail social, en fait.
Et c'est-à-dire que le travail avec l'humain pour essayer de gérer le contenu d'un entretien, c'est difficile. C'est un non-sens.
Non, c'est un non-sens. Alors, moi, je ne suis pas opposée à l'idée de rendre des comptes. Et produire des statistiques. Bon, je me dis, pourquoi pas. Et c'est une nécessité, sans doute, aussi, pour objectiver...
Et pour défendre, des fois, des besoins. Parce qu'il ne faut pas voir la statistique, forcément, comme une négative de contrôle. Mais,
ouais, puis ça donne une idée. C'est vrai que c'est pas
inintéressant.
Pas déconnant, hein. Après, c'est comment on les exploite, en fait. Quelle analyse on en tire. Quand on a commencé à nous demander des statistiques en volume d'entretien, en volume, par exemple, d'informations préoccupantes, en volume d'heures passées sur la route, des choses comme ça, à un moment, je dis, bon, pourquoi pas, mais il faut qu'on puisse exploiter ça. Je me suis souvenue du premier poste que j'ai occupé, où en fait, sans le savoir, je faisais des entretiens collectifs. Il y avait une grosse communauté turque sur la localité. Et en fait, pour rencontrer les femmes, c'était tout un bazar. Donc, il suffisait que j'aille chez une personne pour qu'elle rameute toutes les voisines. Donc, je me retrouvais des fois à m'entretenir avec 10 personnes. Donc, j'y passais l'après-midi. Donc, pour la secrétaire, j'étais où ? Chez Madame Truc.
Oui.
Je fais un entretien chez... Comment t'as passé 3 heures chez Madame Truc ? Alors, attends, je t'explique. En fait, j'ai pas vu que Madame Truc. J'ai vu Madame un tel, puis ses deux filles, puis un tel, puis son fils qui a un problème là. Donc, en fait, j'ai traité plein de situations en 3 heures chez Madame Truc. Mais oui, mais c'est pas possible parce qu'éthiquement, tu peux pas traiter. Ben si, parce qu'en fait, dans cette communauté-là, tout se sait, on fonctionne comme ça. Et les gens nous repèrent comme étant à un moment la personne qu'on peut solliciter quand on a un souci. Mais si demain, la secrétaire, elle nous fixe des rendez-vous de 45 minutes au bureau, si les visites à domicile commencent à être comptabilisées, ça veut dire que tout ce contact-là avec la population l'a plu.
Ça, ça a été l'élément déclencheur d'un départ, d'un changement, d'un...
Ouais, c'est devenu insupportable, en fait. Mais vraiment, moi, j'en tombais malade. Ça devenait... J'arrivais plus à travailler, je perdais le sens de mon...
Vous vous sentiez empêchée dans votre action.
Puis je trouvais que ça faisait violence aux gens. Moi, je me dis, si c'est pour mettre les gens en difficulté quand ils viennent nous voir, mais c'est pas la peine, en fait. Moi, je veux pas encourager ça, je veux pas participer à ça. Donc, j'arrête. Donc, je suis partie à ce moment-là à l'aide sociale à l'enfance.
Ok.
Sans y croire, hein.
Ok.
J'avais jamais travaillé à l'aide sociale à l'enfance, j'étais pas spécialement intéressée par l'enfance. J'espérais plutôt trouver un poste dans l'insertion. À ce moment-là, je n'ai pas trouvé, donc je suis allée à l'ASE. Et puis, alors là, j'avoue que c'était une révélation.
Ah.
Ouais. Déjà, la relation avec les enfants, je trouve que c'est fabuleux. Avec les adolescents, c'est encore mieux. oui, je dois dire, là, vraiment, j'ai pris du plaisir.
Ah.
J'ai pris du plaisir à peu près sur tous les postes, je pense, hein, mais différemment, sur des objets différents. On a vraiment sur le plan de la relation, et je pense que c'était... oui, c'est vraiment le poste idéal travailler sur le lien, quoi.
Oui, effectivement, parce que sans lien, du coup, auprès des enfants, c'est... on ne travaille pas. Du coup, la protection de l'enfance, l'aide sociale à l'enfance, comment... Là, c'est un milieu où vous vous sentez... pareil, en équilibre, du coup, enfin, vous arrivez à retrouver un peu de sens.
Oui, parce que l'équipe est plutôt bienveillante. J'ai un chef de service qui est très compétent, une chef de service très compétente. Je retrouve en fait des liens de confiance avec la hiérarchie. une grande liberté d'intervention, des possibilités d'échange avec mes collègues, mmh. et puis la relation que les adolescents savent offrir, intéressante, différente en tout cas. Alors là, je ne sais pas non plus si mes interventions... Je pense qu'en fait, le problème, c'est que je suis toujours assez admirative de travailleurs sociaux qui savent rationaliser, théoriser, conceptualiser, objectiver leurs interventions, qui savent les planifier, utiliser des outils adaptés. Moi, je ne sais pas faire ça, en fait. Alors, j'ai l'impression d'être un peu brouillonne hein, dans ma manière d'intervenir. Où souvent, c'est vrai que je déborde. J'ai du mal avec le cadre, j'ai du mal avec la contrainte. Donc oui, je déborde.
Vous débordez comme vous avez pu déborder avec la situation que vous nous avez exposée.
Un peu, ouais.
Vous êtes à la limite du cadre, mais pas dans le sens revendication du cadre pour le déborder, plus dans le sens parce que les situations vous amènent à un moment donné à faire un pas de côté pour que vous avanciez dans la situation.
C'est plutôt être au plus près. C'est-à-dire qu'à un moment, avec des adolescents, il y a des moments où il faut être là tout le temps.
Vous étiez dans quel service? On n'a pas dit c'était...
Alors, service et social à l'enfance, hein, toujours au département.
Ouais. Et au niveau des mesures, missions, enfin, tranche d'âge.
Alors, j'étais sur de l'AED.
Donc, action éducative à domicile.
Voilà. Et je suis intervenue essentiellement, au départ un peu sur toute tranche d'âge, et puis ensuite essentiellement auprès d'adolescents à partir de 16 ans.
Okay.
À partir du moment en fait où on commençait à réfléchir l'insertion socio-professionnelle. Donc ça pouvait être soit des jeunes qui sortaient de placement et qui, pour lesquels le placement n'était plus une solution, mm-hmm. Soit qui étaient encore dans la famille, et puis il fallait commencer à penser à l'insertion socio-professionnelle, l'autonomie de ces jeunes. Mm-hmm. Alors là, des jeunes avec des profils extrêmement différents, des jeunes avec très peu de besoins, des jeunes avec beaucoup de besoins. Alors pour moi, au départ, j'ai essayé hein, les outils, les objectifs. Alors, les objectifs, c'est important, parce qu'on signe quand même un contrat avec... le titulaire, l'autorité parentale et l'accord du jeune. Donc, il faut quand même qu'on soit en accord sur les objectifs et sur les modalités d'atteinte. Mm-hmm. Mais assez rapidement, en fait, je me rends compte de l'aspect un peu... en fait, alors ce protocole, il est important. Ma condition, qu'à un moment, on le déborde un peu. Je m'explique. Accompagner un jeune dans son insertion professionnelle, par exemple, ou la définition d'un projet d'insertion professionnelle. Alors, je vais donner un exemple. Il y avait une jeune fille, elle avait 15 ans à l'époque, en rupture scolaire, elle ne voulait plus du tout aller au collège, elle avait redoublé deux fois, c'était compliqué pour elle. Elle était en conflit avec sa mère qui essayait de refaire sa vie avec un nouveau compagnon, et puis une vie domestique très désorganisée. Cette jeune fille, je la prends en charge quand elle a près 15 ans, et on essaye de définir ensemble... un projet, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, de quoi elle rêve, On met à peu près un an quand même hein, pour définir son projet, parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient bousculer, qui vient... Donc on a essayé la classe relais, on a essayé la réinscrire dans son collège d'origine, changer de collège, rien n'y a fait. En fait, l'année s'est soldée par, à chaque fois, une rupture scolaire. Donc à un moment, je me dis c'est pas le bon moyen, ça ne lui convient pas, on va faire autrement. Alors avec la maman, c'était un peu compliqué parce qu'elle m'avait vraiment lâché l'affaire en me disant débrouillez-vous parce que moi je peux plus la supporter, je sais pas comment faire avec elle. En même temps, ça me paraissait important de rencontrer la jeune fille chez sa mère pour essayer de réintégrer la mère dans la définition du projet, même si elle n'était pas assise avec nous, elle pouvait entendre, elle était quand même là, pas loin.
Puis comprendre un petit peu un système familial aussi, et comprendre le domicile, ça aide.
Exactement. Et puis je finis par comprendre en fait que ce qui arrête cette jeune fille, c'est qu'elle est très inquiète pour sa mère, même si elles sont en conflit toutes les deux. La mère est très dépressive et du coup la jeune est très inquiète. Pour sa mère, elle a toujours peur que sa mère se suicide, que sa mère soit malade, que sa mère disparaisse. Donc je me dis, en fait, ça la plombe, cette affaire. Donc on essaye, alors je lui propose le psychologue du service, qu'elle refuse. Je lui propose des vacances à un moment, de partir un petit peu, elle refuse. En fait, tout ce qui l'éloigne de sa mère, pour elle, n'est pas envisageable. Mais en même temps, elle ne supporte pas de vivre avec sa mère. Bon. Donc, du coup, je lui propose plutôt d'envisager un projet d'insertion professionnelle qui lui permettrait d'avoir un salaire, donc de gagner un peu en autonomie, d'être moins dépendante de sa mère, et du coup, peut-être de construire autre chose, mais sans la forcer à se séparer de sa mère, parce que c'est ça qui fait problème. Mmh. Donc je me dis, si je m'y prends pas comme ça, elle va... À partir du moment où on envisage ça, elle est partante. Donc elle me dit qu'elle a toujours rêvé d'être coiffeuse. C'est là que je déborde, en fait, parce que... Et en fait, dans la voiture, il se passe toujours un tas de trucs. Donc elle me raconte sa vie, elle me raconte sa relation avec sa mère, avec sa petite sœur, son petit frère, son père... Donc, en fait, cette journée, pour moi, c'est 15 entretiens d'un coup.
3 ans de prise en charge.
Bon, je lui dis, écoute, on va recommencer. Donc, voilà, on a déposé des CV partout. Je dis, on n'a pas fini la tournée, donc on va continuer. Donc, on se refixe 2 jours à un autre moment. Je reviens la chercher. Pareil, on a passé comme ça. On a dû passer 3-4 jours. Mm-mm. À manger ensemble aussi le midi. Alors moi, j'ai toujours un peu de mal à manger avec les gens, mais enfin bon, là, il se trouve que c'était différent, ça s'inscrivait dans... C'était un peu un voyage, en fait. Il a été retenu par un salon. Malgré tout, je pense que si on n'en passe pas par là à un moment, des fois, on n'y arrive pas.
Mais oui, bien sûr.
Le fait de l'emmener, de venir la chercher, ça m'a permis de rencontrer le patron et de discuter avec lui. Et en fait, de l'aider à accompagner aussi cette jeune fille, parce que lui dit, oui, elle n'est pas ci, elle n'est pas ça. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'elle a de bien? Comment vous pouvez la soutenir? Et finalement, de trouver aussi, de son côté, un peu d'attention. En fait, il a commencé à me dire, ah oui, finalement, elle est bien, cette jeune. Faire de la médiation, ouais. C'est pareil pour la jeune que j'allais chercher le dimanche matin pour l'emmener travailler à la supérette dans le village, plus loin. C'est le fait de rencontrer le patron régulièrement, le fait que le patron voit qu'effectivement c'était une organisation un peu compliquée, ouais. Qui lui a fait dire, bon, du coup, moi je vais lui faire l'avance d'un scooter, elle me remboursera sur son salaire. Donc on a pu mettre en place l'achat du scooter.
Ça débloque des fois un petit peu des situations, ça permet l'évolution, ouais, de certaines situations, effectivement, d'être là un peu plus, de porter un peu plus qu'on doit le porter, qu'on devrait, je sais pas comment dire. Que la règle voudrait, je
c'est
sais
ça.
Pas.
Après, moi, ce que je vais questionner, c'est quoi les besoins à ce moment-là du jeune, ou de la personne, parce que c'était bien. J'essaye de l'interroger sur où il en est, c'est quoi son besoin. Si parfois il peut pas le dire, mais il le manifeste. Si je viens pas, il va pas travailler. Si je viens, il va travailler. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il est en train de me signifier à partir de cet acte qu'il pose d'aller ou de ne pas aller travailler en fonction de si je viens ou si je viens pas? C'est ça qu'on travaille dans la voiture.
C'est ça.
Et c'est aussi ça le travail social. Ça. C'est interpréter comment les gens nous parlent au travers des actes qu'ils posent et accepter qu'ils les posent sans juger, sans dire c'est pas bien, là tu m'embêtes, j'ai pas envie d'être là pour toi. Si je viens, c'est que j'ai envie d'être là pour toi. Des fois, il me dit, ah, je m'excuse, je devrais pas. Si je suis là, c'est parce que j'ai choisi d'être là.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est pas toi qui m'oblige à être là. C'est parce que moi, je décide d'être là pour toi. Et je veux comprendre pourquoi tu as besoin que je sois là. Ce jour-là, pour aller travailler, qu'est-ce qui se passe le matin quand tu dois aller travailler, que tu ne peux pas y aller si je ne suis pas là? De quel étayage tu as besoin? De quelle confiance tu as besoin? De quel regard posé sur toi tu as besoin? Et où est-ce que je peux trouver ce regard avec toi ailleurs qu'en la personne du travailleur social que je suis?
Te rendre plus libre et autome par la suite.
Ouais, c'est ça, c'est-à-dire à quel moment tu vas trouver en dehors de moi ce même étayage pour continuer ta route? Mais peut-être des fois, bah oui, il faut être là quand même.
Il faut déborder, des fois.
Il faut déborder pour arriver à travailler ça.
Oui, effectivement. Vous passez combien de temps à l'aide sociale à l'enfance?
Bonne question. Pas très longtemps, en définitive. Parce que pendant tout ce temps, j'ai continué des études au CNAM, okay. Cours du soir. quand je ne suis pas allée chercher des jeunes à leur travail. J'étais au CNAM, donc j'ai fait une... je me suis formée à un diplôme qu'on appelle responsable de formation.
Ouais.
Mon idée, en fait, c'était d'aller vers l'enseignement à un moment. Donc, d'avoir une maîtrise pour pouvoir ensuite passer le concours d'entrée à l'éducation nationale. Donc, c'était ça, mon projet. Et puis, à ce moment-là, l'IRTES a fait une offre. Du coup, je me suis présentée, puis j'étais retenue.
OK.
Donc, je suis rentrée ici avec le sentiment que je n'étais pas à ma place, en fait, que je n'avais pas le niveau. Oui, les premières années ont été aussi dures, je crois, que la prise de poste d'AS. Ouais, des doutes perpétuels, quoi. Pourquoi ils m'ont retenue, moi? Qu'est-ce que je peux apporter? Oui, j'avoue que c'est... Alors, je ne sais pas si ce doute, il est finalement bon pour l'exercice de mes fonctions ou pas. J'en sais rien. En tout cas, je doute toujours. Hein. Je dois dire que c'est toujours là.
C'est vrai.
Ouais. C'est toujours là. J'ai toujours un peu ce doute de me dire, bon sang, je... J'aime bien écouter des travailleurs sociaux qui sont... très organisée, ordonnée dans leur... Je suis toujours admirative. Moi, je pense que je fonde trop, sans doute, l'intervention sur la question relationnelle. Parce que je fonctionne avec ça.
Mais là, du coup, auprès des étudiants, comment vous transférez un peu ce besoin de relation, de lien, dans l'accompagnement de leur formation par rapport à ce que vous avez connu avant ? Dans le travail social, on va dire, entre guillemets, pur et dur, de l'accompagnement, de l'intervention sociale, comment le transfert se fait sur les étudiants?
Bonne question. Moi, en fait, mon intention, c'est de leur donner envie de rencontrer des gens. Des fois où, par exemple, dans les questions, quel est votre public préféré? Moi, j'ai pas de public préféré. Et je trouve qu'une rencontre, qu'elle soit avec une personne âgée, un enfant, une personne sans domicile, peu importe, pour moi, l'essentiel, c'est ce qui se passe dans la rencontre. Bon, c'est rare, hein, des vraies rencontres, mais il y en a. Et du coup, si, je me dis, c'est quand on ouvre la porte à ces vraies rencontres qu'on trouve le sens du métier. Bon, c'est vrai que pour qu'il y ait ces espaces de rencontres, il faut aussi avoir un minimum de rigueur dans la mise en œuvre de nos supports d'intervention, qui, il faut bien le dire, dans notre métier, c'est quand même l'accès au droit. Donc, la question des connaissances législatives, de l'analyse, pour moi, elles sont centrales dans notre métier, parce que c'est pas juste aimer les gens, c'est aussi être en capacité de mettre en place des choses qui vont leur permettre d'avancer. Donc, c'est maîtriser les dispositifs d'accompagnement, c'est connaître toutes les possibilités qui existent sur un territoire, c'est avoir suffisamment de liens avec les partenaires pour passer le relais au bon moment, c'est avoir cette rigueur aussi dans l'intervention. Si on a fixé rendez-vous, on y va. Si on a dit qu'on faisait quelque chose, on le fait. Bon, c'est fixer des objectifs, c'est fixer des échéances, c'est aussi ça. Alors, j'ai beau dire que oui, tout est dans la relation, certes, mais la relation en elle-même ne suffit pas. Si à un moment, on ne structure pas un minimum les choses, c'est vrai que ça ne fonctionne pas. En tout cas, on va rapidement trouver nos limites. Mais il me semble que si on ne fait que du travail social technique, moi, je me dis, on s'ennuie assez vite, en fait, dans ce métier.
Bah, c'est plutôt des tâches répétitives si on ne voit pas la rencontre des personnes. Si on ne voit pas un peu plus loin que la première demande, effectivement.
Si, en sortant d'ici, les étudiants me disent « je prends du plaisir à être avec les gens », pour moi, c'est quand même une bonne partie de gagner.
Oui, c'est une satisfaction pour vous.
Ah oui.
Ouais. Qu'est-ce qui fait satisfaction aussi, du coup, dans ce nouveau... c'est des nouvelles fonctions par rapport à être travailleur social quand on devient formateur, j'imagine. Qu'est-ce qui apporte un peu de retour? On en parlait tout à l'heure de gratification des personnes que vous avez accompagnées. Là, c'est quoi les... Parce qu'il y a l'obtention du diplôme, mais il n'y a pas que la réussite à l'examen, j'imagine.
Non, il y a ce qu'ils deviennent. J'en ai un exemple devant moi, ça me fait toujours plaisir. de voir d'anciens étudiants qui s'épanouissent dans leur métier, qui partagent un peu le regard que je peux avoir sur les gens, sur le travail, sur la manière de conduire. Des gens qui portent ce métier. Voilà, c'est, là, franchement, je suis contente. Je sais que j'y suis pour rien, pas grand-chose, parce qu'en fait, ici, on coordonne de la formation, on coordonne des dispositifs, mais je ne sais pas si on transmet réellement quelque chose, en fait. Par contre, je reste vraiment toujours un peu... je me rends compte que quand même, l'essentiel de la socialisation professionnelle, elle se fait une fois qu'on est sur le terrain. C'est-à-dire que je vois des étudiants qui ont beaucoup évolué entre la formation. Des fois, je me dis, oh, est-ce que cet étudiante ou cet étudiant est prêt? Je ne suis pas sûre. Il me semble qu'il lui manque quelque chose. En fait, je les retrouve 2, 3, 4 ans plus tard. Et c'est des gens super qui ont vraiment déployé des super compétences. Voilà. Et puis d'autres, à l'inverse, je me dis pendant la formation, c'est quelqu'un qui est vraiment abouti et tout ça. Et finalement, sur le terrain, ils font honnêtement leur travail, mais je suis surprise par le tour qu'a pris leur manière d'exercer le métier. Et en fait, je dois dire que si j'avais une étude à mener maintenant, ce serait là-dessus.
C'est vrai. Ouais.
Moi, mon problème, je pense que c'est... J'ai tellement aimé la formation d'AS.
Oui, vous l'avez dit, vous étiez chez vous.
Ah oui, mais j'étais tellement bien dans cette formation qu'arriver sur le terrain, c'était décevant.
Oui.
Je ne pensais pas que c'était si décevant.
Qu'est-ce qui était essentiellement décevant, du coup?
Ce qu'on faisait.
Oui, la réalité du travail.
Alors ça a cessé d'être décevant quand je me suis rendu compte qu'il suffisait que je m'ouvre aux gens, en fait, puis que, que j'arrête de m'intéresser à mes solutions pour... Et les écouter, eux, quoi. Mais ça, j'ai mis un peu de temps, hein, j'avoue.
Mais finalement, c'est ce qui vous a fait un peu violent sur votre expérience en polyvalence. Quand vous disiez, j'ai connu la fin de la polyvalence, quand on vous demande un petit peu de calibrer votre intervention, c'est là où, dès qu'on est un peu restreint, on a l'impression de ne plus pouvoir accompagner correctement.
Même puis, il n'y a plus de créativité. En fait, ce qui est intéressant, je trouve, dans le travail social, c'est la possibilité d'inventer.
Ouais.
À partir du moment où vous calibrez, où vous recentrez sur des dispositifs définis, désignés, et si on vous dit, voilà, toutes les personnes qui n'entrent pas dans ces dispositifs-là, vous ne les recevez plus, ça veut dire qu'à un moment, vous n'innovez plus, vous ne créez plus, vous vous sclérosez dans des protocoles et finalement dans des réponses standardisées. Or, l'intérêt du travail social, pour moi, c'est ce qu'on va inventer avec la personne. Qu'est-ce qu'on va inventer ensemble pour que votre vie prenne un autre tour?
C'est tous les montages qu'on peut imaginer, mais qu'effectivement, si à un moment donné, dans le montage, on nous dit « non, ça ne rentre pas dans la case », ça, c'est compliqué à entendre, je trouve.
Ah ben, c'est insupportable, ouais. Parce que pour moi, on n'est plus dans le travail social. On va être dans de l'instruction. On va être, on devient ce que j'appelle le guichetier, c'est-à-dire que, voilà, ça rentre dans la case, je vous accompagne dans l'accès à ce droit-là. Alors, on va y mettre un peu de relation, parce que, voilà, pour que ça se passe le mieux possible, mais en même temps, on ne crée rien, on n'imagine rien, on n'amène pas la personne aussi à retrouver là, autour d'elle et en elle, finalement, ce qui peut être une solution. Puisque la solution, c'est un protocole. Et puis, alors que si on s'écarte finalement de ça, on peut se dire, alors, qu'est-ce qu'on a là comme outil possible? Comment vous vous situez par rapport à ces outils? Où est-ce que vous vous sentez le mieux par rapport à tous ces outils? Je vois par exemple, maintenant, pour les aides financières, c'est d'abord vous faites ça, après vous faites ça, et ensuite peut-être vous aurez accès à ça. Mais non, en fait. des aides financières, il y en a plusieurs. Il y en a certaines qui sont contraintes, d'autres pas, d'autres qui sont conditionnées à certaines choses. Après, les gens, pour moi, notre travail, c'est de les informer au mieux sur l'existant. Et après, ensemble, on regarde ce qu'on peut combiner, là où ils sont le plus à l'aise, qu'est-ce qui leur paraît le plus juste au regard de leur situation. Donc, ça veut dire qu'à un moment, on leur donne le pouvoir de comprendre, d'activer le dispositif qui leur convient le mieux. On n'est qu'une courroie de transmission.
C'est ça. On est le passeur d'infos.
On est le passeur d'infos.
Donne le pouvoir.
Voilà, on est celui qui va permettre d'ouvrir des portes qui paraissent a priori fermées. Sauf que ça, c'est de moins en moins le cas. Parce qu'en fait, c'est tellement protocolisé. Voilà, le surendettement, les gens, ils font d'abord leur dossier. Après, on voit pour les demandes d'aide financière. Et c'est d'abord ça et ensuite ça. C'est-à-dire que les gens doivent suivre, en fait, un chemin contraint, tracé. Et vous n'êtes que le personnel qui va devoir, ce qu'on lui demande, amener la personne à s'inscrire dans ce parcours. Même si ça ne lui convient pas. Même si vous percevez que derrière, ça fait violence aux gens.
Comment vous briefez un peu les étudiants? En tout cas, comment vous les éveillez à ce qu'ils puissent avoir cette... À un moment donné, ce questionnement positif d'un fonctionnement, cette curiosité un petit peu, que ce soit pas juste des très bons exécutants qui appliquent le protocole. Parce que ça, c'est un sacré challenge, je trouve, de pouvoir dire aux étudiants soyez curieux, questionnez-vous et faites une critique, qu'elle soit positive ou négative, mais essayez d'être critique sur un dispositif ou sur quelque chose qui existe, si c'est dans l'intérêt de la personne que vous accompagnez.
Alors, on s'appuie beaucoup sur les stages, quand même.
Ouais. J'imagine que vous trouvez une énorme pertinence à ces stages.
Ah ben, bien sûr. Ouais.
Parce que c'est les retours qui vous permettent d'ajuster, de travailler.
Moi, je pense que ce qui fait la force de cette formation, c'est l'alternance.
Ouais.
Mais c'est d'ailleurs ce que nous reconnaît l'université, par exemple, qui, de ce point de vue-là, est vraiment en difficulté. C'est-à-dire former des personnes qui ont déjà la connaissance d'une pratique, qui sont capables de conceptualiser une pratique. Finalement, il n'y a que les formations professionnelles qui fondées sur l'alternance qui permettent ça.
Oui.
Donc nous, je le dis sans détour, je pense que c'est les stages qui leur permettent essentiellement qui leur permettent ça aux étudiants, de prendre ce recul, d'expérimenter la limite en fait des politiques publiques. Nous après. Je dirais que c'est par l'offre d'apports théoriques qui vont leur permettre de comprendre pourquoi il y a ces limites, pourquoi il y a eu ces politiques et que recouvrent ces politiques et dans quel sens, à un moment, on les a pensées, qui les a pensées, dans quel objectif, dans quel but.
Est-ce que vous avez du coup un avis sur le travail social quand vous avez commencé et le travail social de maintenant, même si vous êtes j'ai pas envie de dire plus à distance, mais peut-être moins sur le terrain, parce que vous avez quand même des retours du terrain très réguliers, mais qu'est-ce que vous sentez évoluer, modifier, changer, je sais pas?
Alors, il y a certainement moins d'autonomie.
Ouais.
Ça, c'est une certitude. Enfin, en tout cas, c'est les retours que j'en ai. Ouais. Et puis, moi, en 17 ou 18 ans de terrain, déjà, j'avais rencontré cette évolution-là. Moi, je continue de trouver qu'il y a quand même de moins en moins d'autonomie.
D'accord.
Et je me demande si c'est pas aussi à cause de ça qu'on a moins de candidats au métier.
Ouais.
C'est un métier qui est perçu comme un métier d'exécution. Alors que ça ne l'est pas.
Non.
Alors moi, je ne suis pas dans l'idée de « c'était mieux avant », parce que il me semble quand même que malgré tout, il y a davantage de prise en compte du droit des personnes et de la place des personnes dans l'accompagnement. Avant, ce n'était pas donné, en fait. On considérait quand même que l'AS devait quand même rééduquer parfois la personne. Alors moi, quand je suis arrivée sur le terrain, on était encore dans ces idées de contrôle. Je trouve que la vision est moins globale, elle est moins humanisée. Alors, on parlait tout à l'heure de l'évolution des pratiques numériques, mais je pense que ça y contribue aussi à ça. Les choses sont traitées à distance. Enfin, quand j'entends aujourd'hui les collègues me dire la complexité qu'il y a dans la communication avec la CAF, Et quand je me souviens, moi, de mes interventions pour récupérer les droits CAF sur mon premier poste.
Ou sur votre premier stage, vous traversiez un bureau.
Exactement. Mais même sur mon premier poste, c'était très facile.
Oui, c'était
parce
facile.
Que les AS CAF ou même les conseillers CAF, parce qu'en fait, on avait les agents CAF. Il suffisait qu'on traverse le parking. Enfin, donc nous, on était sur une localité annexe, mais là où on avait notre site, notre résidence administrative, on traversait un parking, on était à la CAF. Et on arrivait avec le dossier, le numéro CAF, et on disait, rien, un petit problème, les gens n'ont pas reçu leur prestation ce mois-ci. On regardait le dossier avec le technicien de la CAF, et puis on trouvait une solution.
Ouais.
Ça se faisait dans les 5 minutes.
Ouais,
parfois, on emmenait les gens avec nous, on traversait le parking avec eux, et puis on disait, non, mais là, il y a un problème. Bon.
C'est effectivement pas un travail social qu'on connaît aujourd'hui.
Moi, non.
Je vais vous poser les 3 petites questions de la fin. Si vous aviez la fameuse baguette magique qu'on entend beaucoup parler, que ce soit sur le terrain ou alors en formation, je me souviens moi que ça, on en avait parlé une fois pour nous dire, peut-être c'était en première année, je crois, pour nous dire vous n'êtes pas des super héros, vous n'avez pas de baguette magique. Ben ok, ben si on l'avait, qu'est-ce que vous en feriez du coup?
Alors si j'avais une baguette magique, je changerais peut-être pas grand-chose, ni sur le métier, ni sur la formation. Je changerais le système politique.
Ok.
Producteur d'inégalités. Et ça devient, à mon avis en tout cas, un vrai enjeu de société. Je reste quand même assez convaincue que les travailleurs sociaux ont à faire remonter. Je ne sais pas si c'est des besoins, je ne suis pas sûre qu'on puisse parler de besoins, mais en tout cas, alors si, il faut remonter des besoins, ça c'est sûr, mais en tout cas, faire remonter des évidences.
Une réalité.
Une réalité. En ce qui concerne les inégalités, la pauvreté, alors ce qui m'afflige, et c'est pour ça que si j'avais une baguette magique, c'est peut-être là-dessus que j'agirais, c'est qu'actuellement, moi j'ai plutôt l'impression que le personnel politique s'en désintéresse. Alors évidemment, on est en pleine campagne électorale, donc en ce moment, bien sûr, on reparle des inégalités sociales, mais c'est même pas ça qui est au cœur des débats, finalement, c'est une question de sécurité, d'immigration, etc. Or, c'est pas le problème, on voit bien que la préoccupation des gens, d'abord, c'est d'avoir des conditions d'existence décentes. Or, je trouve que les travailleurs sociaux sont quand même confrontés aujourd'hui à des conditions d'existence, je trouve, inadmissibles pour un pays riche. Et si j'avais une baguette magique, c'est sans doute ça que je changerais en priorité.
D'accord. Ma deuxième question, c'est si vous deviez faire autre chose, ce serait quoi? Autre chose que de...
J'y ai pensé il n'y a pas très longtemps, parce que des moments où j'ai moins d'énergie. Alors, c'est très difficile, mais en fait, j'ai envie de vous dire, là, récemment, je me disais, je vais peut-être quitter la formation pour revenir
sur le terrain.
C'est quelque chose qui me travaille régulièrement. C'est pas la première fois que je le dis. Parce que, en fait, ça me manque. Des fois, je vais en visite de stage, je dis, oh, je viendrais bien travailler là. Est-ce qu'ils m'embaucheraient? Tout à l'heure, je vous regardais, je me dis, est-ce qu'elle m'embaucherait?
Mais ça serait du coup rester dans le social, si vous deviez faire autre chose.
J'aurais beaucoup de mal à quitter le social.
Ah ouais, d'accord. Ouais,
beaucoup de mal.
Ouais, ouais.
Pour moi, c'est. Je continue de penser que je suis chez moi.
Ouais.
Mais ce serait peut-être de l'enseignement traditionnel, classique, l'éducation nationale. Parce que pour moi, la vraie utilité d'avenir, elle est là, en fait.
Ok. Ce podcast veut créer du lien entre les invités, du coup. Donc, on vous a posé une question et je vous demanderai tout à l'heure de poser une question au prochain invité. Je ne sais pas encore qui c'est. Mais votre question, du coup, c'est comment voyez-vous le travail social dans 20 ans avec l'arrivée en puissance du numérique? Et la personne faisait référence effectivement à la crise sanitaire, à la fracture numérique, enfin voilà, au tout numérique. Comment on peut imaginer le travail social dans 20 ans?
Bon, moi, je pense que là, en ce moment, on vit une crise parce que c'est arrivé très rapidement, le numérique, la dématérialisation. On y est allé à marche forcée. Donc c'est normal qu'on soit un peu dépassé par la dématérialisation et qu'il y ait cette fracture parce que il y a toute une partie de la population qui n'arrive, qui n'accède pas ou qui prend du retard là-dessus pour des questions environnementales, pour des questions de ressources, etc. Alors, moi, le numérique, il y a deux choses. C'est que d'une part, j'y suis réfractaire pour des questions d'écologie. C'est très coûteux écologiquement. Et du coup, je me dis, mais je pense qu'on n'ira pas très loin, parce que si on va sur l'idée d'une finitude des ressources, de toute façon, l'énergie, on n'en aura pas assez pour aller vers le tout numérique tous ensemble. Mmh. Donc, soit on abandonne toute une partie de la population, ce qui n'est pas envisageable dans un projet de cohésion sociale, malgré tout, que porte une démocratie, même si parfois cette démocratie me semble un peu fragilisée. Mais bon, voilà. Après, je ne suis pas opposée. Je trouve que quand même, le numérique, c'est super confortable pour plein de choses. Très honnêtement, cette question, moi, je n'ai pas de réponse. Je sais qu'écologiquement, c'est pas tenable. Et je sais que aussi, ça a des bénéfices et ça a un intérêt. J'avoue que moi, quand j'ai débuté ma vie professionnelle, j'avais pas de téléphone portable. Et je suis tombée en panne en race campagne.
Je vous laisse poser la question au prochain invité.
Changeriez-vous politiquement ?
Ça marche.
Pour faciliter... le maintien du travail social, en tout cas le... Oui, pour que continue le travail social.
Bon, très bien. Merci Aude pour cet échange très très riche. J'espère vous revoir un jour sur le terrain, alors.
Oui, si vous m'embauchez.
Merci beaucoup.
Merci,
à bientôt.
À bientôt. If you think you're alone, you are wrong. Because what you defend is a gift in your hand. You just have to be proud, say it clear and loud. Because what you defend is a gift in your hand. Just have to be proud, say it clear and loud. Invisible voice for unstoppable choice.